Mais donc salut, nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Libre Radio, la radio des riches très riches, pour vous les pauvres, très pauvres.
Voilà, donc nous sommes toujours en direct depuis la place des Grottes, juste derrière la gare Cornavin à Genève, accolé à la Maison Verte, dans laquelle il se passe quelque chose de tout à fait spécial aujourd'hui et demain, le repas solidaire péruvien. Donc ce sont des animations pour les adultes et les enfants, et pas que, toute une série d'activités. Si vous souhaitez venir vous solidariser avec les événements récents et actuels qui se déroulent au Pérou et dont on va parler immédiatement, eh bien, vous êtes les bienvenus ici à la place des Grottes jusqu'à 20h aujourd'hui et également dimanche 16 avril, demain, de 12h à 20h. Alors, nous sommes en présence de Carmen Despeyel, bonjour.
Bonjour.
Et puis
bonjour.
Et de Louise, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, vous êtes respectivement, Carmen, vous, l'organisatrice de cet événement de solidarité par rapport au Pérou.
Oui, oui.
Voilà. Et vous, Louise, vous êtes tour opérateur spécialiste de l'Amérique latine.
Tout à fait.
Et vous revenez tout récemment du Pérou, justement.
Oui, il y a 2 semaines, j'étais là-bas, encore sur place. J'ai passé 3 semaines au Pérou. J'étais plutôt à Lima et au sud du pays.
D'accord. Alors, justement, peut-être qu'on va immédiatement vous poser la question pour savoir quelle est la situation dans le pays après ces inondations et ces éboulements qui ont eu cours ces derniers mois.
Mais disons que la saison des pluies, normalement, au Pérou, va du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Et maintenant, on a eu un épisode qui revient de temps en temps, il s'appelle El Niño. Ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, c'était ce qu'on appelle un Niño côtier, donc qui est arrivé seulement sur la côte, surtout sur la côte nord et le centre du pays. Et ce qui fait, c'est qu'il y a eu des pluies dans des endroits où en général, il ne pleut pas, donc au-dessous des 2000 mètres d'altitude. Ce qui fait que des régions et des villes qui n'ont pas l'habitude et avoir des pluies, ont eu des très abondantes pluies, surtout sur la côte nord du Pérou, mais aussi sur la côte centrale, au moindre escale. Mais voilà. Ces villes ont beaucoup souffert parce qu'elles ne sont pas préparées, justement, et c'est pour ça que les lits des rivières asséchées se sont remplis et voilà, se sont débordés.
Alors justement, on va replacer déjà géographiquement le Pérou sur la map monde. Il faut savoir que c'est un pays qui a une très très longue côte pacifique, hein, plus de
3500
km. Voilà. Donc j'étais bien loin de là, voilà. C'est un pays qui est en Amérique latine, avec au nord l'Équateur et puis la Bolivie, la Colombie.
Tout à fait, au sud de la Colombie, de l'Équateur, à l'ouest du Brésil, au nord du Chili et au nord-ouest de la Bolivie. On est donc bordé par l'océan Pacifique.
Voilà. Et puis, peut-être pour le rappeler pour les personnes qui nous écoutent, donc qui sont principalement des personnes qui habitent ici à Genève, à Lausanne et en Suisse en général, c'est un pays qui est quand même gigantesque. Hein. C'est le troisième plus grand pays de l'Amérique latine.
1 280 000 km². Et puis, mais disons que par rapport à l'idée que tout le monde a du Pérou, en fait, il n'y a que 20% des montagnes, les Andes, 65% du territoire. C'est la forêt amazonienne et 5% c'est un désert saharien, des sables qui est tout au long de la côte. Donc c'est là où les événements les plus dramatiques se sont produits justement cette fois-ci.
Et alors justement, on va continuer. Alors, ça veut dire 1 250 000 km².
280 000 km².
Voilà, ça veut dire à peu près 30 fois la Suisse, 30 fois la Suisse.
Oui, plus de 2 fois la France.
Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un pays énorme. Hein, énorme. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas idée de l'étendue du territoire depuis la Suisse, mais effectivement c'est un pays énorme, peuplé d'environ 30 millions d'habitants.
Environ 30 millions d'habitants. Et justement, je voulais, par rapport à la grandeur du pays, je voulais dire, parce que ce qui se passe, c'est que la région la plus connue et touristique du pays se situe au sud du pays. Donc Arequipa, Cusco, Lac Titicaca se trouvent au sud du pays. Ils ont vécu un épisode des pluies tout à fait normal, comme de n'importe quelle saison des pluies. Et malheureusement, avec les nouvelles qui sont arrivées depuis l'étranger, ils ont beaucoup souffert du manque du tourisme. Les gens ont renoncé à voyager et c'est malheureusement, en fait, ça n'aide pas parce qu'on a besoin justement d'aide des voyageurs. Et puis au sud, rien d'extraordinaire n'est arrivé, pas plus que n'importe quelle année en fait, en saison des pluies.
Alors voilà, on va continuer encore et puis bien entendu qu'on va entrer dans la spécificité de cet événement, de cette grande tragédie que traversent les populations au Pérou. Cusco, c'est la capitale, disons,
touristique
historique, culturelle du pays.
Tout à fait, oui.
Avec comme alors que la capitale politique administrative, c'est Lima.
Voilà, qui abrite un tiers de la population.
10 millions d'habitants.
Tout à fait.
D'accord. Mmh. Ça veut dire que le reste du territoire est relativement peu peuplé ?
Peu peuplé. Surtout la forêt amazonienne, qui a une densité très, très basse. Et les grandes villes se trouvent voilà, sur la côte nord, par exemple. Trujillo, Chiclayo et Piura sont parmi les villes les plus peuplées. Mais au sud, il y a l'équipe à Cusco qui sont aussi qui ont plus d'un demi-million chacune. Mais la plupart de la population est centralisée sur Lima.
D'accord. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Ces événements, donc vous avez évoqué El Niño, donc cet épisode climatique.
Oui, tout à fait. Mais c'est un Niño côtier, comme j'expliquais, ce qui fait qu'en général, pendant El Niño, il pleut souvent et très abondamment dans tout le territoire ou là surtout où il y a des pluies, c'est-à-dire les Andes et la forêt amazonienne. Cette fois-ci, c'était un Niño costero, un Niño côtier, ce qui fait la température de l'eau du Pacifique est augmentée énormément, jusqu'à 26 degrés, si je ne me trompe pas. Ce qui fait que dans un territoire où il ne pleut jamais, se sont formés justement des nuages qui ont provoqué des pluies diluviennes au-dessous des 2000 mètres, là où il ne pleut jamais. Ou presque. Bon, nous, vous savez, les déserts péruviens, c'est une prolongation du désert d'Atacama, les plus arides du monde. Donc, il y a des régions où il ne pleut pratiquement jamais, et là, il y a beaucoup plu. Et lorsqu'il y a plu, les Andes se trouvent très proches de la côte, et il y a eu beaucoup d'éboulements, parce que là où il a plu, justement, il y a beaucoup de lits asséchés qui se sont. Je ne sais pas comment dire, là.
Ici en espagnol.
Mais ils sont remplis d'eau, en fait, avec tout D'accord. l'eau qui descendait, tout l'eau qui est tombée dans la cordillère, pas très loin de la côte. Par contre, il n'a pas plu très haut, là, normalement, où se trouvent les réservoirs d'eau, les barrages, ce qui fait que les réservoirs sont assez asséchés, quand même. Donc, vraiment, c'est toute une situation très complexe qui a fait que ce soit vraiment quand même soit une situation catastrophique, non différente des autres événements et d'El Niño qu'on a eu précédemment. Je pense que depuis 1925, on n'avait pas eu des épisodes, des pluies aussi abondantes dans ce territoire, c'est-à-dire la côte nord du Pérou et le centre aussi.
Alors, qu'est-ce que ça implique en termes humains ? Il y a eu, évidemment, j'imagine, malheureusement...
Il y a eu plus de 100 morts, oui,
voilà,
effectivement.
Et puis, donc, ça veut dire, voilà, il y a toutes ces personnes décédées, et puis, j'imagine, des milliers de personnes déplacées, touchées dans leur maison, touchées dans
Il y a des villes entières, des villages entiers qui ont été dévastés, détruits, qui sont toujours inondés. Maintenant, disons, c'est un procès assez long, parce qu'après... Les pluies, les inondations, les morts et tous les ravages qui fait la pluie elle-même et les rivières débordées. Ensuite, on a vraiment, tout, comme vous mentionnez, les déplacements des personnes. Lima concentre quand même une énorme population de masses qui sont déplacées pour d'autres raisons précédemment. Et maintenant, bien entendu, il y a des gens qui doivent chercher un autre endroit pour vivre. Et puis maintenant, il y a les épidémies qui sont... quand même on a une relation directe avec ces eaux qui restent maintenant
souillées.
Tout à fait, donc la dengue, les malaria et toutes ces choses-là qui commencent, donc à part je veux dire, on va parler probablement des aides, parce que maintenant la population entière s'est mobilisée. Ça, c'est extraordinaire, c'est une des bonnes choses qu'on a vues, que j'ai vues dans mon pays. Il y a des bonnes choses quand même, hein, donc il ne faut pas dire... On a vu les meilleurs et les pires côtés, en fait, humains, parmi nos nationaux et la population entière, les gouvernements. Donc on a de la solidarité, les gens se sont mobilisés comme jamais.
Ouais,
comme jamais.
Oui, typiquement, j'ai par ailleurs vu un hashtag Una Sola Fuerza.
Tout à fait, c'est Una Sola Fuerza, c'est les slogans qu'utilisaient les gouvernements pour dire voilà, on est un seul pays, une seule force là, pour s'unir, et ça a marché.
Voilà, alors bien entendu qu'il va falloir plus loin savoir quelles sont les responsabilités et comment... pour que tout cela ne puisse plus se reproduire.
On n'est pas là encore, pour l'instant, on est en train de reconstruire. On essaye, parce que c'est vrai que c'est dur de ne pas penser à ça. On l'a pensé au début avec beaucoup de rage contenue, parce que là, c'est clair que dans beaucoup de cas, on aurait pu éviter, comme dans la plupart des catastrophes naturelles, on aurait pu éviter tout ce qui s'est passé. c'était pas fait comme ça, mais maintenant on est en procès d'aider, on fait les gens. La reconstruction commencera bientôt, déjà commencé en certains endroits, ça va prendre des longues années. Et pour ça, on a besoin justement d'oublier de les sédents d'arrière un petit peu ce qu'on pense de nos politiciens.
Ouais. Quelle est la situation dans les villes, dans les villages, dans les campagnes au Pérou actuellement ?
Tout dépend. Les villes comme Trujillo, Chiclayo, Piura se remettent beaucoup plus rapidement parce qu'ils ont beaucoup plus des moyens, ils sont débloqués des aides du gouvernement et les gens se sont bougés vraiment pour nettoyer, pour reconstruire dans les villages. C'est même pas très isolé, là, la situation est catastrophique parce qu'ils n'ont absolument rien. Et c'est vrai que les gens apportaient beaucoup à manger et à boire pendant ces jours-là, mais après il faut reconstruire leur vie, quoi. Donc, et c'est clair que bon, je pensais si ça m'arrivait, probablement j'aurais à qui demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui n'ont personne
Alors voilà, justement, le gouvernement sur place est-il en action et
très
sinon,
performant. Là, je me félicite de ça. Je te dis vraiment, c'est pas. Et une question des partis, ce n'est pas une question des filiations, c'est tout simplement, j'étais fier de voir tous les efforts que mon gouvernement, avec l'aide des Péruviens, dans les pays à l'extérieur, on fait pour aider. On était vraiment une seule force.
Ah, ça c'est vraiment chouette, au moins d'apprendre ça. Les organisations se présentent sur place, typiquement là, peut-être la Croix-Rouge, y a-t-il des organisations qui sont là, Médecins
Tous.
Du Monde ou...
Beaucoup.
D'accord, donc de ce côté-là, au moins on voit que la solidarité se met en route.
Était bien organisé, en fait, si le gouvernement a créé cette une seule force, c'est justement pour que toutes ces organisations, les privés, tout le monde soit uni pour pouvoir acheminer l'aide d'une façon organisée. Tout ça. Mais il y a beaucoup de gens comme Carmen qui font des efforts personnels et puis ils sont tout à fait louables. Et puis je félicite parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément accès parce que beaucoup de gens, les gouvernements ou les privés, ne pensent pas qu'ils peuvent avoir besoin d'aide. Donc il y a beaucoup de minorités qui souffrent encore, donc petit, on s'en sort.
Eh bien Louis, c'est très bien que tu cites Carmen, parce que justement je voulais y venir. Parmi les personnes qui sont en train de se solidariser et d'essayer de bouger la société civile, alors peut-être encore, est-ce que les pays voisins du Pérou ont contribué d'une certaine manière à l'aide apportée aux Péruviens ?
Oui, beaucoup.
Donc
beaucoup.
Ça c'est vraiment aussi, c'est vraiment...
Oui. On est une seule force, en fait, même avec l'Amérique latine. Mm-hmm. Parce que maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi en Colombie. Ça vient de passer aussi quelque chose aussi lié avec les pluies.
Le Niño, ouais, d'accord, avec la
pluie. Et puis, et les gens se bougent ici, ils ont fait des fêtes, ils ont fait des groupes solidaires qui se sont formés. Et puis, il y a tout le monde qui vient pour aider.
C'est génial.
C'est génial.
Et alors toi, il se trouve qu'aujourd'hui, ici, aujourd'hui et demain, depuis la place des Grottes, donc juste derrière la gare Cornavin à Genève, tu t'es dit, moi je veux organiser quelque chose qui puisse permettre aux personnes de passage de s'informer et de se solidariser avec ce qui se passe au Pérou. Alors, qu'est-ce qui se passe ici à la Maison Verte aujourd'hui et demain ? Donc on va le rappeler, c'est de midi à 20h, samedi 15 aujourd'hui et demain dimanche 16 avril.
Oui. On offre la nourriture péruvienne. Et que c'est une nourriture qui est très bonne. Et puis, on essaye avec ça de trouver l'image du Pérou aussi. Et pour que les gens se solidarisent justement avec notre culture. Et puis, aussi la musique. Uh-huh. La musique qu'on écoute là, c'est une musique de toutes les sortes de tous les... des gens qu'il y a au Pérou, les blancs, les noirs, les indios, les cholos, tout le monde se solidarise dans un seul cœur.
Ouais. Et alors, on verra plus précisément après le programme d'aujourd'hui et de demain. Mais qu'est-ce que les gens peuvent apporter ? C'est plus une aide financière en venant acheter un plat péruvien ? Ou est-ce qu'il y a également des dons qui sont à faire ? Ou de quoi est-ce que vous auriez le plus besoin ? De quelle manière est-ce que les personnes peuvent se solidariser ? Est-ce que c'est plus en venant et en achetant un petit truc parce que c'est plus de l'argent qu'il faudrait envoyer là-bas ? Ou d'autres choses ? Je ne sais pas, des médicaments ?
Oui, des choses. Maintenant, il y a d'autres groupes qui sont en train de faire ça, de s'organiser pour récolter des habits, tout ce que les gens peuvent avoir besoin.
Oui.
Mais aujourd'hui, c'est plutôt acheter la nourriture, hein, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup collaboré à l'affaire aussi. Et il y a un groupe de jeunes d'ici, de Suisse, qui sont là en train de servir les gens. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, moi, avec mon idée de cette rencontre, c'était de solidariser les Suisses et puis les Péruviens en même temps. Aussi pour qu'eux, ils travaillent avec nous, en fait.
Alors, en tout cas, ça se passe très bien, parce qu'ici, c'est une ambiance tout à fait conviviale, des personnes en costume, d'ailleurs,
oui.
Magnifique costume.
Oui, elle va chanter tout à l'heure.
Ah, d'accord, donc voilà, okay. Voilà. Donc il y a un concert tout à l'heure. Ce sera à quelle heure?
À 16h, il y a des valses péruviennes. Il y a quoi comme valse? Quando llora mi guitarra, Regresa,
okay.
Contigo Perú.
Mais nous, je vais rajouter une chose par rapport à ce qu'elle fait, Carmen. Nous, ce qu'on a vu, et finalement, malgré tout ce qui est arrivé, on ne perd pas le sourire. Au Pérou, on a bien envie de pleurer parfois lorsqu'on voit certaines images. Mais j'ai lu hier que les gens de Trujillo disaient que les mouchoirs servent à danser et pas à pleurer.
Donc il y a vraiment la volonté de dépasser ça au plus vite.
On essaie, il nous faut.
Bien sûr,
de toute façon, nous, ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière et puis on va s'en sortir.
C'est ça, il me semble qu'en 2007 déjà, il y avait eu un épisode.
Et en 83, voilà, il y a tout de temps en temps, ça arrive, on a les tremblements de terre, mais nous, on est beaucoup plus fort que ça. Quoi. Je ne sais pas comment on fait.
Mais concernant sur place de nouveau la situation, est-ce que par exemple l'eau potable. C'est quelque chose qui pose un problème actuellement, le ravitaillement des personnes qui ont été déplacées.
Il y a beaucoup d'eau, mais il y a beaucoup d'eau qui ne sert pas, sert à rien.
Dont on peut pas servir.
Et l'eau, dans le cas de Lima, par exemple, qui abrite la plupart de la population, et les plantes de purification d'eau ne servent pas beaucoup parce que l'eau arrive avec beaucoup de boue. Des pierres, tout ça. Donc, pour nettoyer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est vrai qu'il y a les purificateurs d'eau et tout ça, ça sert énormément. On ne parle pas seulement ici des nourritures, mais aussi des abris et des eaux potables, parce qu'il fait quand même. Ils ont vécu au Pérou l'un des étés les plus chauds. Je ne sais pas en combien d'années, donc à 32 degrés à Lima et puis à 40 à Piura, c'est vrai qu'on a soif et puis les gens ont soif. Donc et malheureusement, ils ne peuvent pas boire tout l'eau. On a vu des gens se disputer pour un litre d'eau à Lima et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie dans mon pays. Et bon, ça nous bouge un peu, ça nous secoue un peu, nous disent voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas que notre petite vie qui compte. Il y a d'autres choses qui se passent ailleurs. Et puis, heureusement qu'il y a des gens comme Carmen qui aident.
Mais oui. Et puis, est-ce que les différentes communautés de Péruviens qui sont dispersées dans le monde sont déjà, j'imagine, en train de se mobiliser pour un petit peu partout, comme à Genève, essayer d'apporter un petit peu d'argent? Parce que j'imagine que finalement, le nerf de la guerre, là, il est là. Il faut de l'argent pour pouvoir acheter des denrées.
Mais pas seulement que dans les autres villes du monde. Dans chaque ville du Pérou, chaque petit village, il y a dans la place principale, il y a un endroit où les gens peuvent déposer de l'aide. C'est vrai, ça je n'avais jamais vu. Et puis bon, malheureusement, le mois de mai commence les froids, qui à chaque année fait beaucoup de morts aussi. Donc voilà, c'est quelque chose. Je ne pense pas qu'on devrait se limiter à organiser ce genre de choses uniquement lorsque ça arrive. Maintenant, on a beaucoup de temps et il nous reste quelques années pour la reconstruction. Mais maintenant, comme je disais, les mois de mai et juin, c'est la saison la plus froide au Pérou. Et il y a souvent beaucoup de gens qui meurent de froid, donc on doit continuer. Mm-hmm. C'est un boulot de toute une vie, donc on va devoir continuer à faire ça.
Alors là, on peut effectivement de notre côté lancer un appel pour que les gens vous rejoignent. Hein. Carmen, par exemple, au sein, c'est une association, vous êtes constitué en association ou c'est un collectif juste de la société civile?
Si, pour cette fête, c'est un comité qui mm-hmm. s'est formé avec 100 personnes qui ont pu s'organiser et puis pouvoir aussi être un peu transparent par rapport à tout ce qu'on va récolter comme fonds et puis pouvoir aussi dire à tous ceux qui sont participés ce qui se passe avec son aide. En principe, l'idée c'est toujours de pouvoir aller dans les endroits les plus loin possible de disons, parce que maintenant partout le Pérou il y a besoin d'aide. Mais maintenant d'arriver jusqu'à ces gens c'est aussi un travail d'envoyer les fonds, de voir à qui on donne pour que notre objectif se fasse une réalité. Alors on a convoqué aussi aux gens qui peut aussi nous dire s'ils connaissent des familles qui ont vraiment besoin et qui peuvent arriver à leur donner l'aide. Oui. C'est bienvenu.
Vous parliez justement avant de la Croix-Rouge, tout ça. Moi, je fais aussi un appel d'une certaine façon parce que Helvetas, Caritas, Croix-Rouge sont présents tout le temps et c'est vrai qu'ils aident énormément. Et bon, ils ont bien organisé tout ça. Il y a la société civile, c'est mis à travailler énormément pour aider. Mais il y a ces organisations aussi. Ce n'est pas difficile à faire, donner de l'argent. Et puis, eux, ils sont sur place. Ils ont déjà une équipe. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont besoin tout simplement d'aide. Mais voilà, nous, on s'amuse et on aide. Donc voilà, avec Armin ici, on fait la fête. Et puis en même temps, on aide. Donc,
tout à fait. Et puis comme vous l'avez dit, hein, tous les deux, c'est un travail au long cours. C'est aujourd'hui, mais pas que aujourd'hui. Alors en l'occurrence, c'est aujourd'hui et demain sur la place des Grottes à la Maison Verte. Mais il y a les prochaines semaines avec les saisons dures qui arrivent au Pérou. Il y a également tout ce que l'on sait après ce type d'événement, la situation sanitaire qu'il faut rétablir avec, vous l'avez dit, la dengue. Il y a des épidémies qui peuvent se déclencher, le problème du ravitaillement alimentaire, du déplacement à l'intérieur du pays, les hôpitaux, j'imagine que c'est une situation si délicate.
Nous avons quelque chose qui joue très bien à notre faveur, en fait, c'est que nous avons la meilleure nourriture au monde, en fait. La gastronomie est extraordinaire, donc voilà, de toute façon, on va dépenser, on va sortir, on va manger, pourquoi pas les faire, on est en même temps qu'on aide, donc... Bon, j'ai mangé tout à l'heure, là, c'était délicieux, tout était très bon. Et puis, si en même temps, je me fais plaisir et en même temps, j'aide, donc c'est parfait. Donc, on appelle les gens qui restent à Genève, qui sont nombreux, en fait, à rester pendant Pâques, ici, à venir aujourd'hui,
à venir
demain.
Ici,
demain, il fera beau.
Absolument. Une petite question, sur place au Pérou, est-ce qu'on sait, on connaît un petit peu la situation des terres arables? Est-ce que là, on sait que voilà, ça va poser un problème parce que beaucoup de terres ont été traversées par des flots de boue? Ou est-ce que les cultures sont quand même relativement saines et sauves?
Énormément, on parlait justement que les Incas, ils avaient même fait usage de ces gens des catastrophes pour utiliser au maximum possible ces eaux, ces boues qui venaient des Andes, qui apportaient beaucoup de limaux et ce genre de choses. Nous, on a perdu un peu toutes ces techniques. Et c'est vrai qu'il y a... heureusement, les Niños s'est présenté après que la plupart des récoltes importantes, en fait, qui servent à l'exportation, avaient été déjà effectuées. Les mangues, les asperges, les citrons. Mais il y a d'autres qui ont été perdus. Et bon, il n'y a pas que du mauvais. Au sud, les récoltes ont été très bonnes. Et puis parce que les pluies ont été abondantes et généreuses. Et d'un autre côté, il faut le dire, moi qui travaille dans le tourisme, je n'ai jamais vu de ma vie des montagnes aussi vertes au Pérou que cette fois-ci. Et c'est un spectacle extraordinaire qui va durer jusqu'au mois de juin. Donc une autre façon d'aider le pays et de voyager, de visiter, parce que malheureusement, ils ont eu une très mauvaise période à Cusco, Puno, tout ça. Et puis si on voyage, on se fait plaisir de la même façon qu'ici on se fait plaisir en mangeant, on se fait plaisir en voyageant et en découvrant des endroits. Voilà, je n'ai jamais vu les déserts des Nazca vertes, fleuris, C'est extraordinaire.
Ça va être un pays fantastique, le Pérou. Parce
il est magnifique, et c'est pas parce que c'est notre pays, en fait.
Non, non, mais c'est vrai que déjà, sa situation, son climat, fait que, bon, voilà, malheureusement, là, il y a cette catastrophe. Mais effectivement, c'est un pays, en tout cas, comme vous en parlez, qui donne quand même envie qu'on y aille. Donc, d'autant plus qu'on se solidarise immédiatement.
Et on mange bien.
Et on mange bien. Comment est-ce qu'on peut faire un don actuellement? Donc, on peut venir ici et puis acheter un petit peu de nourriture. Est-ce qu'il y a également un compte ou est-ce qu'il est prévu que les personnes puissent faire un don d'une autre manière ou pas encore?
On a mis une petite boîte d'accord. ici pour que les gens se solidarisent et puis ils donnent ce qu'ils peuvent. Et puis non, on n'a pas ouvert un compte parce que ça, on l'a organisé seulement, on a eu 2 semaines pour l'organiser. Et maintenant, je vois qu'en fait, il faut prévoir beaucoup plus de choses pour faire un événement comme celui-ci. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a pu le faire.
Absolument.
Oui.
Et puis, c'est un premier épisode, certainement.
Tout à fait.
Que, voilà.
Tout
alors,
à fait.
Ça, c'est également un appel qu'on peut lancer. Si des personnes seraient intéressées de vous rejoindre pour vous aider en vous proposant un local, une salle gratuitement, des choses comme ça.
Tout à fait. On est ouvert aussi à la participation.
À la participation, exactement.
Il est faux, on est nombreux, les Péruviens à Genève.
Oui,
si je ne me trompe pas, on est plus de 6000 Péruviens à Genève. Donc, on est en 6 romandes. Donc, on pourrait faire vraiment beaucoup, énormément.
Les Péruviens et l'ensemble des Latins. Américain de Genève.
On est tous latino-américains.
La population, voilà, exactement. Et absolument, tout à fait. Alors, de quelle manière est-ce que ces personnes pourraient vous contacter? Est-ce qu'il y a un site internet ou une adresse mail ou un numéro de téléphone
oui.
où les personnes qui souhaiteraient le faire pourraient venir vers vous?
Pour le moment, il y a un numéro de téléphone, mon numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler.
Vous voulez le donner à l'antenne ou on le prend juste comme ça en privé?
Si vous voulez, je peux lui donner
sinon,
à l'antenne.
Sinon, c'est,
comme vous voulez.
Non, c'est vous qui décidez. Si ça ne vous dérange pas. Sinon, nous, on fait relais. Vous préférez le donner? Alors, allez-y.
Oui, le 078 716 71 53. Alors, pour toute aide pour demain et pour l'organiser, parce qu'il faut l'organiser quand même un petit peu. Et puis et aussi si vous avez d'autres idées, on est ouvert.
D'accord. Y a-t-il déjà des prochaines dates qui sont prévues ou auxquelles vous penseriez intervenir ou pas encore?
Pour le moment, non.
Non.
Non, parce qu'il faut la salle, non? J'ai eu la possibilité de le faire ici à la Maison Verte, grâce à que je connais Dominique.
Oui.
Mais,
qui est passé d'ailleurs faire un
qui
coucou
a passé,
tout à l'heure.
Voilà,
ouais.
tout à fait. Et puis qui a été très, très, très généreuse. Et puis et qui nous a permis de réaliser la rencontre.
Oui. En tout cas, nous, on va rester attentifs à tout cela parce qu'effectivement, il y aurait énormément de choses à dire sur le Pérou. En plus du fait d'en profiter pour se solidariser, comme on l'a vu, il y aurait encore beaucoup de sujets qu'on pourrait aborder aujourd'hui, mais on ne va pas prendre trop de temps parce qu'il est déjà 16h10 et puis que vous avez d'autres choses à faire et que le concert va normalement débuter.
Et si les gens veulent voyager au Pérou, il suffit de me contacter.
Voilà, exactement. Alors, j'allais vous demander, vous également.
Ça s'appelle les routes du monde. Les routes du monde, on est à Genève, on est au Paquis, au 3 rue Sismondi. Et voilà, la page web est www.lesroutesdumonde.ch.
Très bien. Bah, merci beaucoup. Alors, je vous remercie en tout cas, moi, d'être venu. Est-ce qu'il y aurait encore quelques remarques que vous souhaiteriez faire, des questions auxquelles je n'ai pas pensé et que vous auriez envie de dire aujourd'hui?
J'aimerais dire que demain, venez nombreux.
Mm-hmm.
Et puis. Qu'il y aura des balles, de la musique péruvienne, et puis qui venait nous rejoindre.
Et puis Carmen, vous serez là pour répondre à des questions,
bien
et
sûr.
Puis éventuellement, si des personnes veulent venir vers vous pour vous faire des propositions, eh bien, vous serez présente.
Tout à fait.
D'accord. Et Carmen va danser aussi.
Ah, en plus, ah, bah, alors voilà. Alors. C'est demain, aujourd'hui, donc jusqu'à 20h sur la place des Grottes, ici derrière la gare Cornavin à Genève. Et demain, de midi à 20h également. Louise Carmen, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
On va se retrouver de toute façon parce que nous, on va continuer et puis on va vous faire quelques propositions, certainement, pour d'autres soirées de soutien à la situation au Pérou et aux personnes qui sont en difficulté en ce moment au Pérou, en leur souhaitant, comme vous l'avez dit, Louise, de se rétablir le plus vite possible. Parce que maintenant, il va y avoir aussi également plus loin un travail de reconstruction à faire, les infrastructures, plein de sujets duquel on pourrait parler radiophoniquement également. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir de pouvoir vous épauler autant qu'on peut. Bonne continuation.
Merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de ça.
Avec beaucoup de c'est plaisir sympa. Et à bientôt alors.
Merci,
à bientôt.
Oui.
À bientôt. Voilà, alors nous, on y va toujours avec notre petite playlist. Alors là, on sort un peu de la musique péruvienne. On y va avec du bon vieux punk français. C'est un groupe quasi culte, Tagada Jones. avec l'alternative, et puis juste derrière quelques chansons, et on reviendra avec le petit sujet de politique, de géopolitique internationale. C'est Libre Radio, La Comète à la Banane et Fréquence Banane sur le net, sur la DAB ainsi que sur la FM jusqu'au 27 avril si je ne me trompe pas, et la FM pour Genève c'est 101.7. À tout à l'heure.
Je n'en peux plus de ce rouleau compresseur dans notre économie, de cette machine de guerre qui écrase toujours et à tout prix, d'un silence beaucoup trop long, complice d'exactions. Je crois que le temps m'est...